On va enchaîner avec la dernière table ronde. Merci mille fois. Merci Marc, c'est un plaisir de vous avoir. On va parler de l'Europe méridionale et des deux directives, évidemment, CSRD et CSDD. J'appelle tout de suite, sous vos applaudissements, Cenk Polo, Tudor Ulianovici, Valon Murtazaj, oui, j'ai bien prononcé, Alexandru Nazare, ici. Voilà, deux ici et deux ici. Merci, messieurs. Il me manque deux personnes, voilà. Oui, très bien, ici. Bienvenue. On va beaucoup voyager au cours de cette table ronde. Allez, on va essayer de... Malheureusement, on va raccourcir un petit peu cette table ronde parce qu'on est vraiment très en retard. On va essayer de faire en 20 minutes un peu le tour de la Méditerranée. Première question, quels pays composent l'Europe méridionale et quelles sont leurs caractéristiques économiques et culturelles distinctives? Qui peut répondre pour poser le débat? Peut-être vous, Alexandru Nazare?
So I was ready to talk about this distinction between East of Europe, meridional Europe, and West of Europe. In in relation to these two directives, and I am wondering, why do we want to reinvent economy? What has happened that somehow, all of a sudden, Europe decided, for some unclear reason, that we redefine everything in economy? We do a different EBITDA, a social EBITDA, we do an environmental EBITDA, the normal EBITDA, we mix these three EBITDAs, and then we do new rules for banking, and we basically reinvent economy in Europe, and we believe we operate under the assumption that the entire world will follow us. Are we certain that the entire world will follow us in the landscape that we live today? I'm wondering, because if we look at European economy, at the performance of European economy, we see deceleration. So we barely have 1% growth. And then we look at these two directives, and we look at the polls and analysis. So 88% of people asked about the directives say that these are an additional burden. 56% of companies asked say that these directives will, they don't know about it. So 50% don't know about it, 88% say that this will be an additional burden. And I'm wondering, how come Europe reached this point of basically inventing or reinventing reality? What is going on in Brussels that we reached this point? I don't have, I believe, and I think there are, okay, very good reasons to start gradually, to have gradually measures towards greening, towards social more care, but not all of a sudden, because I'm thinking about Romania. So in Romania, we had 50 years of communism, and now we want a quality of life that everyone else has in the West. And of course, if we impose this directive on our industry, I wonder what will it happen eventually. So maybe if there was only one continent, Europe, in the entire world, and this one continent was ruled from Brussels and everything was uniform, maybe something like this would have functioned. But I also doubt that it would have functioned even then. So I'm very worried not to destroy the backbone of Europe. Backbone of Europe is SMEs. We have 25 million SMEs. We need to show them some respect, because they employ 100 million Europeans. quarter of Europe is employed by these SMEs, and we're putting all this regulation over them. So I'm very worried about these two, and I'm very worried about the application in Romania. Thank you very much.
On ouvre le débat. En tous les cas, vos propos suscitent bon nombre de réactions. On va faire un tour de table, évidemment. Cenk, est-ce que vous avez le même sentiment qu'Alexandru, évidemment, et cette même inquiétude, trop vite, trop rapide pour certains pays de l'Europe?
We're not worried in Albania because nobody's thinking in applying it, with all due respect. But je préfère de parler en français. Dès que j'ai vu le titre, j'ai consulté des experts, mes collègues. Si quelqu'un dans le gouvernement albanais ou dans des think tanks avait fait une recherche sur l'application de ces deux directives, ce n'était pas le cas. C'est explicable parce qu'elles sont déjà approuvées et un pays comme le mien, qui est candidat à l'adhésion dans l'Union européenne, va graduellement adopter l'acquis communautaire. Donc, ces deux directives, peut-être ça va, le temps va venir dans 10 ans ou dans 12 ans, j'assume. Mais au moment, personne n'y parle de là. Quand même, bon, l'Albanie a un PIB de 41 milliards d'euros et de 8,2 000 euros par tête, per capita. Donc, avec une économie pareille, donc, la préoccupation d'avoir un développement dynamique est primaire et le règlement, même sur des... en fonction de causes augustes comme le droit de l'homme ou l'écologie, donc ça a une, comme dans les autres pays des Balkans occidentaux ou de l'Europe du Sud-Est, à priorité. Quand même, ça peut dire que ça ne fonctionne pas. Je vous donne une expérience mienne. Je fais de temps en temps des consulting. Pour, dans ce cas précis, pour une grande compagnie énergétique européenne, française, qui voulait considérer un projet en Albanie et donc pour bâtir un champ éolique. Et il avait comme condition pas seulement de respecter les zones protégées selon la législation nationale, mais les normes de l'EBRD, de la Banque européenne de développement et reconstruction. C'est comme la Banque de Conseil de l'Europe, dont la vice-présidente a parlé le matin. Et voilà, donc c'est une forme souple, une version souple, une soft version de l'application de cette directive sans les directives. Si ça, si c'est là en faveur du développement économique et du business d'entreprise, c'est une question, mais bien sûr que ça aide un peu à protéger dans ce cas l'environnement. Mais on parle d'un pays candidat à l'Union européenne. J'ai l'impression que cette directive, c'est plutôt pour faire la projection des normes ou des principes ou des valeurs de l'Europe, de l'Union européenne, dans les parties tiers. Je me l'imagine Brésil ou Vietnam, parce que selon nos législations, les droits de l'homme et l'environnement sont protégés par des lois précises. Mm-hmm. Je me demande si on a besoin de forcer les entreprises à faire du due diligence interne pour voir que si dans leur opération, ils ont opéré des normes, quand il y a une législation qu'ils doivent observer et respecter. Mais si on parle dans les pays tiers où cette législation n'est pas très claire ou n'est pas très respectée, ça fait du sens théoriquement. Pratiquement, j'ai des petits doutes. Il y a 20 ans, ou plus de 20 ans, la Chine était un pays en croissance, mais n'était pas, posait pas un défi géopolitique comme aujourd'hui. Et dans le débat, par exemple, américain, on parlait de sweatshops. Comment est-il possible que notre entreprise électronique fasse la production dans les sweatshops? Parce que pour les standards sociaux de l'Amérique, il y a 20 ans, les sweatshops, c'était quelque chose d'horrible. Bon, les sweatshops, c'était quelque chose comme, disons, les fabriques à Paris ou à Londres à la moitié du 19e siècle. Mais dans le contexte local, c'était une autre chose. On indiquait les rapports, les gens qui travaillaient dans les sweatshops, ils ont quitté le travail dans les champs. Et le travail dans les champs, c'était beaucoup plus dur et beaucoup moins payé. Donc, les gens qui travaillaient dans les sweatshops, pour eux, l'ascenseur social avait fonctionné grâce à ces investissements américains ou occidentaux. Donc, il faut voir le contexte dans lequel on applique une norme qu'on croit bonne, qu'on croit qu'on sert à des idéaux augustes, mais à la fin, il faut voir pratiquement. Et à ce que j'ai entendu pendant le colloque, une étude d'impact, un impact study, c'était pas clair qu'on l'a fait. Normalement, la Commission européenne fait ces choses, mais au moins, on va espérer qu'on aura une sombre étude ex posteriori pour voir comment l'application dans les pays tiers, Brésil, Vietnam ou les autres, va fonctionner.
Merci beaucoup. Tudor, votre regard, est-ce que vous partagez le même avis que nos deux premiers invités, même si je vous ai déjà donné la parole ce matin, Tudor?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Thank you so much for giving me the opportunity to speak again. I do believe, first of all, that everything we want to do today to implement the ESG principles, everyone agrees to that. What everyone does not agree to that is the timing and the way it is going to be implemented, because it will be implemented. However, it has to be implemented, and now I'm putting on my business hat on as an employee of a renewable energy organization, company, saying that yes, we will have to implement it. However, what is the financial impact on the activity of the company? Now I take off my business hat, I put on my former Minister of Foreign Affairs of Moldova had, and I say, yes, Moldova wants to have a strong European Union. Moldova wants to be a member of the European Union, and Moldova would like to implement the directives, particularly these two directives, that will have an impact. But the question is, and I would like to echo my good friend Alexandru Nazare for bringing this up, that in the Republic of Moldova, we have 96.8% of small and medium enterprises, and also MSMEs, micro and small medium enterprises. So the immediate impact on implementation overnight will not be an evolution, but it will be a revolution. That's the last thing anyone wants. Nevertheless, globally saying, there is a crisis of multilateralism and a rise of regionalism. So I do think that any implementation of these two directives, particularly the second one, which includes the due diligence and planning, has to be implemented very, very carefully. At the same time, I would like to echo the principle that everything has to be done for the citizens. What is the impact on the consumers, and what is the impact of those who will be paying more? And if we talk about a region of Mediterranean region, which has many countries, why don't we talk about solutions such as enhancing the regional market that can jointly start working with joint list of suppliers having the same database, and as a result, there will not be a risk of a country having a negative financial burden because they cannot allow themselves to get supplies from countries that do not follow, and producers or suppliers that do not follow the ESG principles. So if we work together as a common market with common databases, that is how we can successfully implement these directives. Thank you.
Merci, applaudissements. Allez, après, la Roumanie, l'Albanie, la Moldavie, on va prendre la direction du Kosovo avec vous, Valon. Est-ce que vous partagez effectivement les mêmes interrogations, je dirais, les mêmes inquiétudes? C'est trop tôt, trop vite pour certains pays de l'Europe. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit également?
Merci. Merci, cher Thierry. Bonjour à toutes et à tous. I am very happy to be here, and I'm thinking it's difficult to be the last speaker in the room after 10 hours and to motivate me, you Sorry. To listen me. So as a
ils sont motivés. Ils sont motivés.
So as a professor, I'm thinking about that. But yeah, what I would like to say first is definitely sustainability is a topic very important of our time, and it will depend a lot on our behavior and responsibility. How difficult issues of our planet and of our continent, Europe, will go on. Just yesterday, President Macron said almost Europe can die, which is true in a way if we don't take the right steps to tackle the difficulties that we are facing with. And the difficulties are huge, are large. How real this danger is and will depend on our behavior, definitively, and the decisions we take. So I just want to take 2 points to illustrate these dimensions. As we speak right now, we eat 1.7 Earths. We have one Earth, but we do consume 1.7 Earths. In US, we eat 5.1 Earths. Germany, 3. France, 2.7. Russia, 3.4. China, 2.4. In practical terms, we are eating our future. That means that we have to do something so to preserve our planet for future generations. But how disciplined we can be when on the other side we live in the world of conflicts. Now this is point two, which is in collision with the disciplining and responsibility that we must implement. If we are in the world of conflicts, some rules disappear, right? Can we ask from Ukraine to respect the directives, for example? I agree with you, Bernd. We have a huge conflict in a war, aggression in Ukraine. So that's why this sustainability topic is a big topic. And the third dimension of my discourse is I come from Western Balkans region, Kosovo, conflictual zone for many, many years. Western Balkans countries, I mentioned six countries, which is Albania, Montenegro, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and Serbia. All of these countries are in their path towards European integration in different stages, but all are aspiring European integration. I could say Serbia is not a serious country at this point in this dimension, because Serbia is supporting Russia, and it is not hiding it, unfortunately. And because of that, that is creating big tensions in that region and in my country, in Kosovo. Just in September last year, it was an incursion, paramilitary attack in the territory of Kosovo from organized and supported terrorist group by the government of Serbia. So I'm trying to bring this global regional context and to say that how difficult it is to deal with these directives. And one more thing I have to say. Europe is in danger, and if Russia wins, these directives that we are talking here will not be valid anymore. So I'm open to questions. Thank you.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Je vous avais dit, c'est le premier colloque européen avec des interventions de premier volet, évidemment, et c'est intéressant d'entendre les représentants de ces pays, Roumanie, Albanie, Moldavie et Kosovo, et d'écouter leurs craintes. Est-ce qu'il y a des questions et des réactions, monsieur? Et vous comprenez pourquoi on voulait terminer cette journée en donnant la parole à ces pays. On peut comprendre, évidemment, leurs inquiétudes. Ils ne sont pas prêts.
Le commentaire que je veux faire, c'est que, effectivement, je pense que C'est pas très raisonnable de demander aux PME, qui est le tissu principal économique de l'Europe et d'ailleurs de la plupart des pays, de respecter cette directive et dans des temps aussi courts. Donc, je fais ce commentaire de dire que je suis bien d'accord avec la plupart des panélistes sur le fait que c'est pas très raisonnable. Je voudrais quand même m'adresser au seul représentant d'un membre de l'Union européenne parmi les quatre panélistes. Qui se plaint du fait que en Roumanie ça va être plus difficile pour les PME à mettre en œuvre cette directive que dans des pays comme la France. Mais ma question est quand même de savoir, est-ce que vous ne pouvez pas compter de la part de l'Union européenne, la Roumanie en l'occurrence, à bénéficier de fonds particuliers qui pourrait vous aider et aider les entreprises roumaines à mettre en œuvre cette directive. Ce sont des aides du type de celles du FEDER qui permettent de rééquilibrer les différents marchés régionaux au niveau de l'Europe, qui pourraient profiter pour de la formation, pour une aide, un accompagnement. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose pour vous, la Roumanie, membre de l'Union européenne. Les autres ne le sont pas.
Oui, évidemment, vous avez raison de le préciser, mais il y a des candidats. C'est aussi ça. Il y a des candidats.
Oui, mais pour les candidats, ça ne s'applique pas pour l'instant.
Non, non, je sais bien. Mais
la question est plutôt pour la Roumanie.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous ne pensez pas pouvoir bénéficier d'aide pour vous aider à surmonter ces difficultés qui s'imposent à vous de toute façon?
Réponse.
Thank you very much. Yes, of course we can benefit. I mean, we are benefiting. But the question here is not how much Romania is benefiting. This is a European question, it's not a Romanian question. In Romania, it's not only SMEs that may be affected. Medium-sized companies will be affected. Big companies will be affected. Future investment will be affected. As a Romanian, when I have war 300 kilometers far from Bucharest, I have to think different. I have to be more careful. I have to be active because I'm in a completely different paradigm compared to a normal Westerner. I am defending. My entire career, I supported the European idea ever since Romania acceded in the European Union. But my question is, these kind of details and the speed and the kind of implementation of these directives are compromising the idea. And on the sidelines, extremists from the left and extremists from the right profit. And not only this, also the other global actors that don't that are harming Europe. So in one hand, we have to be aware of these actions, and we have to be aware of the consequences of our actions. So it's not a Romanian thing, it's a statement on how we can preserve Europe for the future, defend Europe, and limit vulnerabilities because we can. Nobody's asking us to put the speed forward on all these directives as they are. Nobody is forcing us not to do consultations. Nobody is forcing us not to discuss with each and every industry. And nobody is forcing us to reinvent the economy.
La réponse vous convient? Tu dors.
Oui, merci beaucoup. First of all, as a candidate status, Moldova has obtained the candidate status to join the European Union, following a geopolitical decision, which was actually a result of the tragic Russian illegal invasion in Ukraine. So it was a decision based on geopolitics and on the war, which is, of course, is a top national security priority. Second, as an EU candidate status, Moldova has to understand what criteria we would need to follow to become eventually a member of the European Union. At the same time, if we go and analyze all the EU expansion waves in the past, I have a question. Do you think that the EU integration criteria for the EU candidate countries, have they become easier or harder? Because the more directives of these kind that will be required to be implemented swiftly or faster in the EU accession process, it is going to be an additional burden, because the more countries join, the more difficult it is to follow the criteria. So I would really like to raise awareness of making sure that we all want to have a bigger Europe, a stronger Europe, but also we have to allow candidate countries to integrate more efficient and easier, not harder than everybody else.
Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. J'aimerais qu'on termine avec quel message, en vertu de ces deux directives, vous avez envie de faire passer donc à la France, à vos collègues européens ou à vos futurs collègues européens. J'ai bien dit futur. On commence par vous. Vous êtes membre de l'Europe. Quel message voulez-vous faire passer à la France et à vos collègues?
Very, very short. France is a leading member of the European Union. France did not agree with the CSDD last version, did oppose it. So France and Germany, as pillars of the European Union, have the duty and responsibility to slow down and look much careful on how these directives are implemented and how they affect the economy.
Efficace et rapide. On poursuit avec vous.
Okay. Malone. So the key term I want to say here is acceleration. But what acceleration? Acceleration of the integration, European integration process for all the Western Balkans countries. So instead of waiting for ages and decades, I think there must be some kind of logical time frame, so all these six countries to be part of European family. For example, I attended many discussions and seminars, both in academic and professional contexts. I think, and my view is that 2030 or 2033 would be the maximum for this process. If that is not going to happen by that time, then we lose the idea of European integration. Thank you.
Merci, Valen. Jean Polo, quel message avez-vous envie de faire passer à la France et à vos futurs, peut-être, collègues européens?
Si tu dois parler français ou anglais.
Comme vous voulez, mais vous parlez un français parfait.
Merci. Bon, alors bon. Je voudrais offrir une autre perspective, peut-être plus réaliste, sur l'adhésion des pays des Balkans occidentaux et des pays de le partenariat de l'Est et de la Géorgie au Caucase. Tout simple, Monsieur Macron, le président de la République française, a dit « j'arrive pas, nous n'arrivons pas à avoir un consensus dans le Conseil avec 27 chefs de gouvernement et d'État. Alors je ne veux pas des autres, des querulants qui nous compliquent encore plus le process de décision. » Et la France a agi plus ou moins dans ce sens. Monsieur Herr Scholz, le chancelier allemand, a dit que je suis pour l'élargissement, mais après qu'on a eu une réforme des traités européens, donc les décisions sur la politique étrangère et l'élargissement ne sont pas soumises à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Comment on fait ça? Par un vote unanime qui abolit l'unanimité. Ça ne va pas arriver parce que ce n'est pas seulement l'Hongrie et la Pologne d'hier et d'aujourd'hui, mais de Chypre à l'Estonie, à la Finlande, il y a beaucoup de pays pour les propres raisons qui ne vont pas voter pour ça. Donc c'est le cercle du diable. Et donc il y a eu, pour conclure avec une note positive, mais j'espère aussi réaliste, une proposition. On a discuté langue, stage accession en anglais, adhésion graduelle peut-être en français, proposée par Mme von der Leyen l'année passée. Donc, oui, les pays candidats, il faut qu'ils travaillent, et l'Union aussi avec eux, pour l'adhésion. Mais en même temps, on les fait participer à des programmes et à des comités et à des institutions de l'Union. Et par ça, soumis à des conditionnalités très claires, ça c'est très important et très utile très, très pour les pays candidats, pour qu'ils se accoutument avec le travaux et les normes et la culture de travail d'opération de l'Union. Parce que l'adhésion pleine, comme la Croatie, comme dernier membre, ça semble compliqué. Et je pense que cette stage accession, une adhésion graduelle, c'est quelque chose de très positif.
Merci beaucoup, Cenk, pour ces mots. Et on termine avec vous, Tudor, très rapidement.
Very quickly, I'll give you an answer as a diplomat. I'm very grateful for France for leadership in the European Union and strongly supporting the EU accession process. As a politician, I would say that it is extremely important that EU candidate countries don't sit on the table, sit at the table together with the EU members to participate in the elaboration of the directives. And at the same time, we need to help the governments, particularly in the Republic of Moldova, those who perhaps don't have the experience and understanding of how to benefit from the EU integration process, and encourage those that can and will make a better place in the Republic of Moldova particularly. That's an answer of a politician. Thank you.
Merci. Et il y a une question dans la salle, là.
No, it's not a question, it's at the end of the day. I will try to come with something very constructive. And I will suggest, if we really want to do something pan-Europa, can we measure our CO2 footprint for this meeting and try to see how we can offset to make it a zero-emission meeting? I'm offering myself as a volunteer if someone else wants to do that. And we can show that efforts can be done. We can do good things in direction of the ESG. And maybe Pan-Europa can be one of the association with zero impact. Thank you.
Merci pour cette remarque et vous avez parfaitement raison. Merci Cenk, merci Tudor, merci Valen, merci Alexandrou pour cette participation. C'était très intéressant de vous avoir. Attention.